I like the river. It's very beautiful. Eiffel Tower, the Louvre, Notre Dame. It's close to the river, so we feel love when we're here in Paris.
Yeah, I agree.
C'est beau. On a envie de se baigner et puis après on sait ce qu'il y a dedans. Donc...
La Seine.
La Seine, voilà.
Ah, toi, tu t'intéresses à la Seine?
Oui, je m'y intéresse. En tant qu'habitant de Paris, on est tous un peu gardiennes et gardiens de la Seine. Et puis aussi parce que juridiquement, j'ai un combat pour faire reconnaître les droits des fleuves et des rivières en France. Donc je m'appelle Marine Calmet, je suis avocate de formation et je suis juriste dédiée entièrement à cette reconnaissance des droits des fleuves et des rivières en France.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Marine, qu'est-ce que tu vois là en face? Une péniche qui passe, le pont Alexandre III. Celui-ci, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est le pont qui est en face de l'Assemblée nationale, hein, où se jouent plein de choses.
Le pont de la Concorde, et on est entre les deux. Bah, ça évoque plein de choses. D'une part, bon, moi, je suis ravie toujours de voir la Seine. Il y a les canards qui sont là. Tout à l'heure, il y avait un cormoran. C'est vraiment très beau. Et puis, les gens viennent courir ici parce qu'on s'y sent bien. Et en même temps, il y a plein de marqueurs qui sont un peu les red flags. Il y a cette péniche qui passe, qui transporte du sable, qui est destiné probablement au BTP, et donc à l'artificialisation des terres. Il y en a plein sur la Seine. C'est notamment cet usage-là qui a fait qu'on a complètement transformé l'usage de la Seine. On a canalisé les bords de Seine, on en a fait en fait des zones de débarquement. D'ailleurs, il y a un très gros projet à la sortie de Paris qu'on appelle Green Dock, qui est un méga port industriel qui est encore vraiment symptomatique de ce que notre société elle fait subir en fait aux berges. Et puis il y a ces ponts, ces ouvrages. Il faut savoir que sur la Seine, en tout, il y a 11 500 barrages. Un tous les 3 km, voire plus, hein, c'est en moyenne. Et donc, en fait, ça fragmente complètement l'écosystème et la continuité écologique, ce dont a besoin, en fait, la nature pour à la fois vivre librement et la Seine, pour qu'elle puisse s'écouler librement. Bah, tout ça n'est pas une réalité aujourd'hui. Et donc, donner des droits à la Seine, c'est aussi cet objectif qu'elle puisse exister, s'émanciper en fait de ces activités humaines qui l'ont défigurée, transformée, modifiée à tel point qu'aujourd'hui elle ne peut plus fonctionner correctement. Et puis il faut savoir que donc là on est juste à côté du pont Alexandre III. C'est là où l'ONG Surfrider est venue faire ses prélèvements dans la Seine. Et il y a donc une publication. Ils ont rendu leurs résultats en démontrant qu'en fait, sur les 13 points de captage qu'ils avaient fait, sur les 14 pardon, points de captage, eh bien, 13 montraient des seuils de contamination bactériologique en fait, bien supérieurs à ce qui est prévu, notamment pour la baignade. Et donc, c'est évidemment un fiasco annoncé en fait, pour les JO parce que cette eau, elle est contaminée. La Seine, ce n'est pas une piscine olympique. On ne peut pas uniquement se poser la question de rendre la Seine saine, S-A-I-N-E, juste au moment des Jeux Olympiques.
Nous sommes les cours d'eau et leurs écosystèmes qui se défendent au tribunal. Les mouvements pour la reconnaissance des droits des fleuves et rivières fleurissent ces derniers temps. Le Parlement de la Loire, l'Appel du Rhône, l'Assemblée des Jours Heureux de Garonne et le collectif des gardiennes et gardiens de la Seine. La Seine, dont la mauvaise qualité de l'eau, révélée impropre à la baignade, à 100 jours des épreuves olympiques qui devraient s'y dérouler, fait tâche. Après tant d'années de maltraitance et malgré le milliard 4 injecté pour rendre le fleuve baignable, la partie n'est pas gagnée et restera menacée en cas de forte précipitation par le rejet dans la Seine d'eau usée mélangée aux eaux pluviales. Alors elle n'est pas contente, la Seine, ni la faune qui l'habite. Et elle rejoint le mouvement mondial qui revendique la reconnaissance de droits juridiques des entités naturelles. Fleuves, lagunes et cours d'eau du monde entier et leurs écosystèmes associés, unissons-nous. Et je retrouve Marine Calmet, autrice de la tribune « La Seine n'est pas une piscine olympique, ce fleuve a des droits », publié dans le journal Le Monde le 4 avril.
Si tu veux, aujourd'hui, il y a une prise de conscience que de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça. Que l'eau, ça va devenir quelque chose d'extrêmement rare demain avec le dérèglement climatique. Et donc, ce n'est pas uniquement en France. Il y a un soubresaut mondial qui, à travers le monde, en fait, notamment par le biais des peuples autochtones, mais aussi de gros réseaux de juristes bien organisés, obtient, un peu dans tous les continents, la reconnaissance de droits fondamentaux à des fleuves, à des rivières, et qui fait avancer comme ça le droit pour sortir de cette relation uniquement utilitariste, basée sur l'argent, basée sur l'exploitation de ces rivières, et où on rentre au contraire dans une logique de préservation, de soins, de cohabitation entre les humains et les non-humains. C'est devenu une source d'angoisse. La Seine. En gros, on s'y intéresse pour des raisons utilitaristes, des raisons d'image, ce que la France va renvoyer comme image d'elle. Moi, j'ai plutôt envie qu'on prenne la question sous un autre angle, en disant, mais cette Seine dégradée, cette Seine polluée, qu'est-ce que ça renvoie comme image de nous ? Pourquoi est-ce que la Seine, qui est vraiment le berceau de l'histoire de ce territoire, c'est-à-dire que les premières peuplades qui sont venues habiter, elles ont choisi la Seine pour ses bocages, pour ses terres fertiles, pour son histoire, ses paysages, et on a transformé ce joyau naturel en égout à ciel ouvert. Et qu'est-ce que ça raconte de nous qui avons tourné le dos en fait à cet écosystème, et alors qu'on lui devait tout, on a oublié en fait de prendre soin d'elle. Il faut lui rendre justice. En lui reconnaissant ses droits, c'est aussi lui rendre justice pour tout ce qu'elle nous a apporté. En fait, on est très inspirés au sein de ce collectif des gardiens et gardiennes de la Seine par le travail de Christopher Stone, qui est un universitaire américain qui, en 1972, hein, ça remonte quand même un petit peu, avait déjà théorisé la reconnaissance des droits fondamentaux de la nature, à la fois sur le plan éthique et aussi sur le plan sociétal. En fait, le droit peut aider à une transformation positive de notre société et être un nouveau pilier justement pour ce que nous on appelle ici en Europe la transition écologique, mais qu'en fait qui est vraiment une bifurcation de société dans son ensemble.
Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du Parlement de Loire, Maison de la Poésie, 17 novembre 2021, performance lecture par Camille de Toledo avec des sons de Rodolphe Alexis. Extrait.
On repart de 1972 et au raisonnement de Christopher Stone. C'est l'année où une société privée est en conflit avec des associations de défense d'une forêt de séquoia en Californie. On a donc d'un côté des intérêts privés de la société Disney qui souhaite exploiter ce milieu pour en faire un resort, une station de ski avec des hôtels, des restaurants. Et de l'autre, des riverains, des habitants qui cherchent à défendre des arbres millénaires. Et voilà la situation juridique. La société Disney a acquis des terrains. Les associations donc saisissent la justice et au terme d'une procédure très longue, le juge va estimer que la société Disney est dans son droit. Voilà le raisonnement des juges, assez brutalement posé. Les riverains n'ont pas intérêt à agir au nom des séquoias sur des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Donc, le droit de propriété s'applique. Et donc là, vous voyez, on a cette scène presque primordiale entre des intérêts de court terme qui vont chercher le développement, notamment en pensant à des bassins d'emploi, de la croissance, des rendements, et des intérêts de long terme, des générations futures, voire dans le cas des séquoias, l'échelle d'une civilisation, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Un conflit donc des temps, entre le temps court de l'industrie humaine, du développement, et le temps long des milieux, des écosystèmes. Et Stone, Christopher, est face à cette question. Il enseigne à l'époque en Californie et il commence à réfléchir à cette bascule du droit où les arbres pourraient accéder à la personnalité juridique. Ils pourraient accéder au tribunal. Et donc, il pense, Christopher Stone, ce qui serait un sceau subjectif, une nouvelle subjectivité légale pour la nature.
C'est bientôt demain.
La Seine, c'est pas une piscine olympique.
Avec Marine Calmet, avocate et juriste de l'environnement.
Antoine Chao sur France Inter.
c'est pas une zone de baignade, juste au moment des Jeux Olympiques. Parce que cette pollution, on l'a fait subir aux poissons, on l'a fait subir aux végétaux qui peuplent la Seine toute l'année, depuis de très très nombreuses années. Et donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment on quitte un peu ce regard très matérialiste en fait à la Seine. Ah oui, j'aimerais bien y faire un plouf l'été. On réintègre ce regard de gardien et de gardienne. Je fais partie de cet écosystème, j'en fais aussi une lutte personnelle parce que c'est un milieu de vie dont j'ai la responsabilité.
Alors Marine, c'est une démarche aussi qu'on retrouve par exemple chez les naturalistes des terres, aussi même dans les soulèvements de la terre, hein, quand ils disent c'est la nature qui se défend.
Complètement, en fait on se rend compte que le slogan libéral disant et opposant constamment droit de l'environnement et progrès, droit de l'environnement et liberté humaine, ben, c'est un message qui est en train de s'effondrer d'une part. C'était déjà un dogme qui était très très lié au capitalisme et dont on se rend compte en fait des effets pervers aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y a pas droit de la nature et droit humain, il n'y a qu'un seul droit pour cette communauté vivante, et si nous ne protégeons pas les droits de la nature, nous n'arriverons pas à assurer la protection des droits humains demain. En fait, pendant mes études de droit, j'ai réalisé que c'était super le droit, on pouvait faire plein de choses, notamment attaquer en justice des grosses multinationales, contester des projets miniers, pétroliers, etc. Donc j'ai commencé à faire du bénévolat pour pas mal d'ONG environnementales un peu partout. Et puis après, j'ai eu mon diplôme d'avocat, je suis partie travailler en Guyane française, quand le projet minier Montagne d'Or, aux côtés des peuples autochtones de Guyane. Je travaille toujours très régulièrement là-bas, parce qu'il y a encore malheureusement énormément de projets qui affectent la forêt amazonienne. Et en 2019, j'ai cofondé une ONG qui s'appelle Wild Legal et qui a pour mission vraiment de faire reconnaître les droits de la nature en France. Et donc, notre mobilisation sur la Seine, on l'a créée autour d'un collectif de gardiennes et gardiens de la Seine qui sont des sources de la Seine jusqu'à l'estuaire. Notre mission, c'est de créer ce réseau qui se mobilise pour obtenir les droits de la Seine et réécrire en fait une nouvelle page de notre relation avec elle.
Ça veut dire quoi, juridiquement et même socialement ?
Juridiquement, ça veut dire qu'elle peut, elle pourrait avoir des droits, et des droits qui, non seulement qui pourraient être portés devant la justice, qui pourraient être aussi opposés à l'administration en cas de projet destructeur ou pollueur, c'est des droits qui pourraient du coup aussi faire donner lieu ensuite à une réparation lorsque ces droits sont violés ou qu'ils ne sont pas respectés, tout simplement. Et puis, ça permettrait de repenser la gouvernance du fleuve, parce qu'aujourd'hui, on a une gouvernance assez éclatée, c'est-à-dire au sens que vraiment, il y a différents échelons de décisions, les citoyens sont finalement très éloignés de ces décisions-là, on a l'impression qu'on ne les consulte plus vraiment. Il faut une vraie diplomatie de l'eau qui associe évidemment les humains, mais qui fait aussi une part aux non-humains, à ceux qu'on n'entend jamais, qui sont totalement invisibles dans notre gouvernance aujourd'hui, ou très peu et minoritairement représentés par des associations de protection de l'environnement qui essayent un petit peu, comme elles peuvent, d'intégrer les commissions locales de l'eau, les agences, etc., là où il y a en fait la possibilité de s'exprimer, mais qui sont ultra minoritaires en final quand il faut prendre des décisions. On a un logiciel juridique qui est déconnecté du logiciel biologique de la Seine, et donc il faut réintégrer en fait ces lois écologiques de la Seine dans notre gouvernance globale.
Alors, on a beaucoup entendu parler du Parlement de la Loire, c'était comme une première initiative en France, mais il se passe beaucoup de choses dans le monde.
Il se passe des choses partout dans le monde, c'est-à-dire que, en gros, le pays pionnier, c'est l'Équateur, qui a reconnu en 2008 les droits de la nature dans sa constitution. C'était une inspiration au niveau mondial, parce que en Équateur, on a déjà une cinquantaine de jurisprudences qui ont permis de faire tomber des projets miniers, pétroliers, qui a permis de protéger les tortues marines, les requins dans les Galapagos, etc. Donc les conséquences, elles sont vraiment tangibles et ça a inspiré énormément de pays à faire la même chose. Donc ensuite, il y a eu notamment la Nouvelle-Zélande sur le fleuve Whanganui, qui est un peu comme la Seine, hein, un fleuve vraiment, c'est l'identité des peuples maoris, hein, le fleuve Whanganui, comme la Seine. Et les Parisiens, c'est la même chose, hein, c'est la même identité. Et finalement, cette mobilisation chez les peuples maoris, elle a permis la nomination de gardiennes et de gardiens du fleuve. Donc ils ont repensé complètement cette gouvernance autour du fleuve. Ils étaient très mobilisés notamment contre les barrages hydroélectriques. Et il y a un énorme port aussi sur le Whanganui. Donc ça a questionné tout ça, ils ont revu leur gouvernance. Et puis je pourrais pas le citer tous parce qu'en fait il y a énormément de cas maintenant au Canada, aux USA, quasiment toute l'Amérique latine est concernée par ce sujet-là, au Brésil et ailleurs, en Colombie. Et puis en Asie ça prend énormément. Et en Europe, on a eu notre première victoire récemment avec la lagune de la Mare Menor, qui est une lagune dans le sud-est de l'Espagne, où en fait il y avait une forte artificialisation des berges et une très forte pollution due aux activités agricoles. Et les citoyens ont fait ce qu'on appelle en Espagne une initiative citoyenne législative, une sorte de pétition qui leur a permis de saisir le Congrès espagnol, de proposer une loi pour les droits de la mare Ménor. Et ce texte, non seulement il a été voté à l'unanimité, ils ont eu les félicitations du gouvernement, et désormais ils peuvent siéger donc dans l'organe de tutelle qui représente la mare Ménor. Et aujourd'hui, cette mare Ménor, ce n'est plus, c'est comme ça que c'est écrit dans la loi, hein, ce n'est plus un objet de conservation, c'est un sujet indissociablement politique, biologique et aussi culturel, parce qu'en fait ils ont fait le lien entre eux et leur attachement profond à cet écosystème et le modèle juridique qu'ils avaient envie de mettre en place pour tourner la page de ces pollutions massives et cette destruction du fleuve. Et je trouve ça hyper inspirant parce que ça a été une lutte portée vraiment par les citoyens avec le soutien des juristes et avec des personnalités politiques qui ont ensuite adopté ce texte. Rien ne nous empêche en tout cas d'y croire, puisque ailleurs ça se fait, c'est une révolution juridique qui est en cours. Et donc nous, c'est pour ça que j'avais choisi de t'emmener à côté de l'Assemblée nationale, c'est important. Nous, notre but, c'est de porter ensuite les droits des fleuves et des rivières de France jusqu'à l'Assemblée nationale et de faire en sorte qu'on change vraiment notre relation juridique, philosophique, éthique et politique à ces écosystèmes qui ont vraiment besoin de nous aujourd'hui.
Merci à Marine Calmet, présidente et cofondatrice de l'association Wild Legal, Camille de Toledo et Rodolphe Alexis pour les extraits de la performance Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du Parlement de Loire, enregistrées à la Maison de la Poésie en novembre 2021. Toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.